À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Prison, peine de corps, c'est le thème des 25e journées nationales prison. Ça commence aujourd'hui, ça se passe cette semaine. Chaque année, des associations du milieu prison-justice organisent des événements partout en France, des rendez-vous pour informer et échanger sur les conditions de détention. Ce magazine est consacré à la sortie de détention. Comment est-elle préparée? Comment se reconstruire quand la prison est ancrée dans la chair? Pour en parler, un film, les témoignages de détenus en chantier d'insertion, l'interview du directeur adjoint de la prison de Bourg-en-Bresse et deux invités avec moi en studio.
Moi, je voulais sortir de la prison. Je voulais sortir avec des moyens en me coupant les veines, passer 15 jours à l'hôpital, me faire recoudre, ça fait une sortie, ça fait un aller-retour et puis voilà.
Je peux te dire que c'est une belle connerie de s'arrêter de pleurer, parce que ça va où, les larmes? Quand tu les arrêtes, eh ben c'est pas chouette. Hein.
Je crains un peu qu'on soit trop dans l'émotion.
Si toi tu me fais pas confiance sur le traitement de ce qui est dit en matière théâtrale, c'est difficile.
Ça, c'est dur pour moi de faire confiance.
C'est ce que je vois. J'ai besoin de vous toucher, ça me rassure.
Moi, je ne peux plus depuis 30 ans maintenant. Et là, je vais avoir beaucoup de mal. Quand on est en détention, on n'est touché que pour la violence ou par la violence ou par les surveillants.
Dis si on s'amusait à devenir vieux, et si on s'amusait à jouer à deux, tu serais mon bâton de vieillesse, je serais ta canne d'allégresse. Et si on s'amusait à devenir vieux, et si on s'amusait à jouer nous deux.
Voir, je vois les choses avec plus d'optimisme.
Vraiment, j'allais dire du salut public de vous entendre.
La bonne annonce du film Après l'ombre, sorti en mars dernier. Il raconte la mise en scène d'une pièce montée par Didier Ruiz avec d'anciens détenus de longue peine. Ce film est projeté ce soir à 19h au cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse. Une projection échange organisée par le Cinémateur en partenariat avec les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Sa réalisatrice Stéphane Mercurio sera présente. Pour le moment, elle est mon invitée. Stéphane Mercurio, bonjour.
Bonjour.
Avec vous dans nos studios, Xavier Breton, député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entre autres membre du groupe d'études prison et conditions carcérales et rapporteur de la mission d'information sur le régime des fouilles en détention. Stéphane Mercurio, comment prison, peine de corps, je le rappelle, le thème de l'édition 2018 des Journées nationales prison fait écho à votre film Après l'ombre?
Comment ça fait écho? Dans le film, donc, on voit d'anciens détenus qui sont en train de travailler une représentation, un futur spectacle. Et dans tous les moments où j'ai pu les filmer en dehors de cette représentation, tous les petits moments comme ça, on voit à quel point la prison est encore dans les chairs tout le temps.
Concrètement, ça se manifeste comment?
Ça se manifeste à un moment de danse où l'un d'entre eux, Eric, qui a passé 19 ans en prison, ne supporte plus le toucher. Ça se manifeste avec un autre qui est dans un grand champ et qui continue à faire des allers-retours comme s'il était encore dans la cour de la prison, dans sa cellule. Ça se manifeste avec Dédé qui dit que c'est son plus bel anniversaire. Ça se manifeste avec les cauchemars qui reviennent. Enfin, voilà, on sent que la prison est toujours, toujours là et qu'elle abîme à tout jamais les gens. Et je crois que quand on réfléchit à la prison, on est obligé de se poser la question de comment les gens sortent, dans quel état ils sortent.
Vous avez parlé d'un coup de tonnerre quand Eric a dit ça. Touché ou être touché, je ne peux plus depuis 30 ans en détention. On touche, on est touché que pour la violence ou par la violence ou par les surveillants.
Oui, c'est pas le pire de ce que raconte Eric, c'est-à-dire qu'il raconte beaucoup de choses dans la pièce et dans le film. Il raconte qu'il a été 9 ans à l'isolement. Il raconte que donc il n'a plus parlé pendant 9 ans à personne. Et il raconte aussi une histoire dedans que je pense qu'il faut l'entendre dans le film parce que c'est tellement difficile que là, comme ça, ce serait un peu abrupt. Mais voilà, il raconte. Et malgré tout, il tient debout, mais il est exceptionnel en ça. Enfin, ils sont tous exceptionnels dans leur façon de tenir debout, parce qu'en général, les gens qui ont fait des si longues peines s'écroulent, enfin meurent à la sortie, ou sont malades, ou voilà, ou parfois sont violents avec les autres, parce qu'on ne peut pas avoir été traité comme ça et sortir normalement. Enfin, voilà.
On n'est touché que pour la violence ou par la violence. La prison en France, c'est ça aujourd'hui, Xavier Breton, un lieu de souffrance ?
La prison a été de tout temps un problème pour la société. C'est quelque chose qui effectivement renvoie à l'état de la société, à son rapport par rapport à ceux qui dans la société ne respectent pas les règles du jeu. Et à ce moment-là, quel traitement on fait ? Il y a cette tentation effectivement d'éloigner, de reléguer, avec donc de punir, mais dans des temps qui sont plus compliqués comme en ce moment, on oublie tout l'aspect qui est, il y a des personnes, il y a leur parcours, ils avaient un avant, leur peine, il y aura un après, et puis il y a bien sûr le temps de la peine aussi qui est à faire, et on voit bien que nous sommes aujourd'hui dans une société qui ne veut plus penser cette question de la prison, qui veut effectivement régler les problèmes d'insécurité, de délinquance, mais qui pense le faire de manière expéditive, ce qui est une fausse réponse. Et je crois que c'est important de garder à la prison toute cette dimension humaine qui fait qu'il y a effectivement des parcours qui sont là avec des fragilités, des attentes, des besoins et puis des appels également qui se font. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de déléguer cette tâche aux surveillants pénitentiaires parce que c'est trop pour eux, c'est pas leur fonction. Il y a un travail formidable qui est fait par des associations qui sont autour du milieu pénitentiaire, qui travaillent, que ce soit les visiteurs de prison, que ce soit avec les familles, etc., qui permettent effectivement d'établir des liens. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Beaucoup à faire aussi dans les conditions carcérales qui ne permettent pas d'éviter ce lieu de souffrance.
Oui, et là, il faut voir, faut faire aussi la part des choses. Parce que quand on entend dans notre société des personnes qui disent que les prisonniers sont dans des conditions favorables, qu'ils n'ont pas à se plaindre, etc. Moi, j'invite, j'ai eu l'occasion de faire, à l'occasion de la mission d'information qu'on a faite sur les fouilles en détention, de voir des établissements comme Fresnes ou Fleury-Mérogis, où là vraiment, moi j'ai eu à Fresnes par exemple 3 lits superposés dans 9 mètres carrés. Il y a 3 personnes qui vivent dans ces 9 mètres carrés avec 3 lits superposés. C'est la première fois que je voyais physiquement ça. Donc je crois qu'il faut porter ce message très fortement. Il y a des centres les plus récents comme ceux de Bourg-en-Bresse qui ont des fonctionnalités qui sont plus modernes, on va dire, qui sont plus adaptées. D'autres questions se posent. Hein, notamment la question d'être les cellules individuelles ont des bons côtés, mais n'ont pas que des bons côtés aussi, il faut le voir. Mais surtout, on a dans d'autres établissements en France des conditions qui sont indignes de notre pays.
La souffrance et l'isolement doivent participer de la peine, c'est ce qui ressort de l'enquête Les Français et la prison de la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP publiée en avril dernier. Stéphane Mercurio, quels sont les retours du public après les projections de votre film ?
Les projections du film, les gens se rendent compte que ce sont des hommes en fait. Parce que la représentation est tellement celle de monstres que du coup on oublie que ce sont des hommes ou des femmes, voilà, comme vous et moi, avec une faute commise à un moment donné. Mais là, on ne peut pas réduire les gens à une faute. Et donc, tout à coup, ça permet, et je crois que quand on comprend ça, ça permet de repenser ce qu'est la prison aujourd'hui. Parce que les prisons modernes, parce que moi, j'ai filmé à celle de Bourg-en-Bresse, c'est autre chose qui se passe, c'est de donc c'est effectivement il y a pas les rats, il y a pas tout ça, enfin mais par contre il y a une inhumanité, un manque de personnel, très peu de gens puisque c'est remplacé par des caméras, etc. qui crée, voilà, qui fait que les gens regrettent en général les anciennes prisons avec parfois des mauvaises conditions. Donc,
Il y a des retours des personnes qui ne comprennent pas justement que ce sont des hommes, des femmes qui ont vocation à retourner dans la société.
Parfois, finalement, les gens sont assez réceptifs. Enfin, quand ils viennent, ils sont assez curieux et donc ils posent des questions. Et je crois que ça change un peu le point de vue. Même s'il y a des gens comme ça qui veulent pas entendre, ils viennent pas voir des projections dans ces cas-là sur la prison. En fait, ils ont pas envie d'en entendre parler du tout. Donc, les gens qui connaissent pas découvrent en tout cas un pan qui est inimaginable pour eux parce que qui se raconte dans le film sur ce qu'est l'enfermement est pas imaginable. On le sait une fois qu'on l'a entendu, mais on peut pas comprendre et on peut. Ça permet aussi de comprendre parfois des choses un peu abstraites, c'est-à-dire que 10 ans de prison comme ça, on dit ça veut rien dire. Enfin, c'est une sorte d'abstraction. Donc, pour comprendre ce que ça veut dire dans une vie de quelqu'un, disons voilà, il faut des récits, il faut des choses qui tout à coup font que. Ah oui, c'est 10 ans, c'est pas rien.
Stéphane Mercurio, vous travaillez depuis 10 ans sur cette question de l'enfermement.
Déjà.
Avant, vous aviez quelle image de la prison ?
J'imagine que j'avais à peu près celle de tout le monde. Je ne m'étais pas posé énormément de questions. Je me souviens plus très bien, mais je ne crois pas que je m'étais posé tant de questions que ça. Et donc, petit à petit, j'ai découvert ce lieu qui ne peut que dysfonctionner au vu du nombre de gens qui sont enfermés, au vu de sa conception aujourd'hui. Donc ça peut pas marcher telle qu'elle est. C'est pas une question de personnes qui sont dedans ou qui travaillent bien ou mal. C'est pas la question. C'est que vraiment l'institution telle qu'elle est pensée ne peut pas fonctionner et produit selon moi la violence de demain. C'est-à-dire que les gens qui sortent dans des conditions comme ça, ça fabrique. La délinquance, on sait tous que les gens sortent plus pauvres, plus fous, plus malades, plus désocialisés de prison que quand ils sont rentrés. Ça, c'est vraiment. Tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de politique qui s'y intéresse. Là, mais...
Xavier Breton, une réaction à ce que vient de dire Stéphane Mercurio ?
C'est vrai que cette partie de l'après-prison n'est pas pensé, n'est pas pris en compte, vraiment en termes politiques. Bon, en même temps, on ne peut pas imputer tous les dysfonctionnements de notre société à la prison. Ils sont antérieurs et il y a d'autres questions qui sont en jeu, comme l'éducation, etc., qui rentrent. Mais c'est clair que l'aspect de la peine qui viendrait effectivement... remettre sur un chemin qui permette d'ouvrir des perspectives pour un détenu, cet aspect-là, concrètement, non, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas assez, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas pensé dès le départ. Quand on regarde, par exemple, même ne serait-ce qu'architecturalement, aujourd'hui, les prisons, les ateliers d'activité, qui devraient être centraux, au sens de dire... On propose une activité et on devrait non pas les reléguer comme on les fait dans un coin du centre pénitentiaire, mais au contraire les prévoir au centre de la prison en disant bah oui, c'est un lieu effectivement d'activité, de rencontre et tout. Toutes ces questions d'architecture ne sont pas prises en compte parce qu'on est sur des modèles qui sont purement budgétaires. On cherche à faire effectivement à l'économie des prisons qui sont implantables dans plusieurs sites, sans regarder encore une fois la particularité aussi de chaque site, chaque ville dans lequel ces centres sont implantés. Donc on est effectivement sur des lectures qui sont... qui ne sont pas prises en compte. Alors, encore une fois, la prison, c'est un concentré de beaucoup de problèmes de notre société qui se retrouvent concentrés dans une surface réduite, vraiment une promiscuité énorme. Et on se retrouve avec un concentré de problèmes qui sont ingérables, d'où les difficultés aujourd'hui, la marmite, entre guillemets, qui est en train de bouillonner au sein des centres pénitentiaires. On peut être très inquiet de l'évolution. Et puis d'où cet éloignement de la société qui empêche qu'on puisse débattre sereinement, politiquement, vraiment, de ce débat de la prison dans notre société.
Stéphane Mercurio, vous êtes allé en tournage à la toute jeune prison de Bourg-en-Bresse. Donc c'était pour votre film À l'ombre de la République. C'était quelques mois après l'ouverture du centre pénitentiaire en décembre 2010. Qu'est-ce qui est ressorti de ce tournage ?
Ce qui était très frappant, ce qui en dit long aussi sur la façon dont est conçue la prison, c'est que il y avait énormément, j'oublie le pourcentage, de jeunes surveillants en premier poste. Donc ils se retrouvaient sur des ailes de 60 détenus, tout seuls, en premier poste. Donc voilà, ils avaient le même âge que les détenus en face. Donc ça peut pas fonctionner parce que forcément ils ont un peu la trouille. Ils se retrouvent dans des face-à-face avec des jeunes comme eux et finalement il faut au contraire beaucoup de bouteilles pour gérer parfois ce qu'ils jouent dans un rapport de force et tout ça.
Oui, parce qu'il y a par exemple un détenu et un surveillant, ils avaient 2 ans d'écart.
Oui, c'est ça. Ils avaient exactement les mêmes âges et puis avec toute l'inexpérience de voilà, parce que gérer des gens, ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se fait en finesse, qui voilà, sinon ça part tout de suite dans des choses conflictuelles et du coup on voyait dans le film effectivement il y avait des passe-droits qui finalement ça gérait avec tu m'as embêté, tu vas pas téléphoner, tu vas pas, voilà, ce qui forcément induit des choses qui dysfonctionnent après. Ça c'était voilà, et puis des difficultés de circulation qui est propre vraiment aux prisons modernes, puisqu'il y a toutes ces portes, peu de personnel, du coup les gens arrivent jamais, n'arrivent pas aux ateliers, n'arrivent pas chez le médecin, voilà, on va pas les chercher parce que voilà. Donc ça dysfonctionne très fort sur les prisons modernes. Et puis la solitude, quand on est 23 heures sur 24 dans une cellule tout seul, sans contact avec l'extérieur, et qu'en plus, en général, on est plutôt fragile psychologiquement, parce que les gens en prison sont quand même des gens qui viennent souvent de familles un peu plus fragiles, ou en tout cas de milieux sociaux et économiques très fragiles. C'est les plus pauvres qui sont en prison. Donc voilà, quand on ça fait des cocottes minutes, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser le film Après l'ombre, par rapport à ce que vous aviez vu quand vous avez fait À l'ombre de la République ?
C'était autre chose. D'abord, c'était une aventure formidable. Et puis, je filmais aussi du théâtre. Et puis, c'est un film qui est plutôt optimiste parce qu'il y a quelque chose... C'est un film pour moi sur la confiance, donc sur comment la parole et la confiance permettent de construire ensemble des choses et permettent de dire l'indicible. Donc, il y a quelque chose qui porte les récits qui parfois sont difficiles, mais ils sont portés par cette chose où ils arrivent à fabriquer quelque chose ensemble. Et voilà, c'est assez touchant de voir cette transformation aussi des gens. Du coup, c'est voilà, ça parle de la prison, mais on est tout à fait dans un autre cadre. On est dans un cadre artistique de création, et il y a une énergie complètement différente.
Vous attendiez à réaliser ce film, c'est-à-dire sur la confiance, quand vous avez commencé, ou c'était totalement l'inconnu ?
Non, d'abord j'étais partie sur un autre film, mais bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais enfin, je rencontre Didier Ruiz et je plonge dans son aventure donc de création théâtrale. Et donc évidemment, avant de faire le film, je sais que je vais parler de prison, et je sais que je vais aussi parler de théâtre, puisque je vais voir un metteur en scène au travail. Ça, je sais, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais par contre, que ce soit un film sur la confiance, ça je le savais pas. Je savais pas que ça allait être sur la confiance, sur comment la bienveillance aussi, notion qui est en train de disparaître complètement de notre société. Où vraiment c'est les aigreurs qui poussent partout. Comment la bienveillance fabrique aussi quelque chose de plus grand qui nous permet de ensemble collectivement de faire des choses. Et c'est important ça, aujourd'hui.
Stéphane Mercurio, avant de vous laisser repartir, une dernière question. Quels sont vos projets pour la suite ?
Mes projets pour la suite, je finis un film sur les trans. Voilà.
C'est-à-dire ?
avec Didier Ruiz à nouveau, je suis repartie avec lui.
C'est une nouvelle pièce qu'il est en train de faire.
C'est une nouvelle pièce qui était à Avignon cet été. Et voilà, et donc je finis le... Je suis en train de... sur les finitions du film. Et donc c'est des personnes trans entre 20 et 60 ans qui font une pièce. Ça se passe à Barcelone. Et voilà. Et là, ils démarrent la tournée en France. Enfin, ils ont déjà démarré. Ils étaient à Nantes. Ils viennent à Paris en février. Voilà.
Et alors, un autre film sur la détention ?
Non, je fais des pauses. Mais de toute façon, à chaque fois que je fais un film sur la prison, je me dis que je m'arrête. Parce que c'est quand même difficile. C'est pas des choses qui intéressent beaucoup de monde et tout ça. Je dis, bon, là, ça y est, c'est bon. Et puis, en général, 2-3 ans après... Comme ça, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de... Et je profite aussi, puisque j'ai un micro, pour dire que aujourd'hui, le Génépic, une association étudiante, n'a pas vu sa convention renouvelée par l'administration pénitentiaire. Et donc, c'est des gens qui interviennent en prison depuis 42 ans, enfin, pas les mêmes, évidemment, hein, parce que c'est les étudiants. Mais c'est entre 800 et 1000 étudiants sur toute la France par an, qui va en détention. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que des gens, des mômes de 20 ans, ils aillent en détention, qu'ils s'intéressent à ça et que, voilà, ils produisent des choses intellectuellement assez costauds. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus rentrer dans les prisons parce que, évidemment, ils ont coupé les budgets, mais du coup, les portes de prison se ferment, on ne les laisse plus rentrer. Donc, voilà, il faut absolument que le Génépuis puisse continuer son action.
Stéphane Mercurio, merci. Vous êtes la réalisatrice du film Après l'ombre, il est projeté à 19h au cinéma La Grenette, une projection échange organisée par Le Cinémateur en partenariat avec les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Demain à 18h, vous serez à la médiathèque Césaire pour présenter votre film Louise, son père, ses mères, son frère et ses sœurs. Vous parlerez de votre métier, des étapes indispensables pour réaliser des documentaires. Xavier Breton vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
Bah, le premier jour de la formation, ce que j'ai ressenti, la liberté déjà.
D'être en contact de la nature que d'être enfermé dans 9 mètres carrés, il n'y a pas mieux.
Bah, cette formation nous apporte le bien-être, hein. Franchement, on est bien. À chaque fois qu'on est là, en train de tailler les herbes ou faire la pelouse.
Une satisfaction du travail qu'on fait pour d'autres gens, les associations. Je pense qu'ils ne sont pas mécontents de notre travail, alors ça nous prouve qu'on est capable, même si on est des détenus, qu'on est capable de faire autre chose quand on nous donne l'opportunité.
Sortir de prison, eux s'apprêtent à le faire. 4 détenus du quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse suivent une formation au métier de la nature et du patrimoine bâti. Restez à l'écoute de Radio B, leur témoignage, c'est dans quelques minutes.
À vous, les Burgiens, sur Radio B, 90 FM.
Les 25e journée nationale prison, ça commence aujourd'hui et ça se passe cette semaine partout en France. À vous les Burgiens est consacré à la sortie de détention. Xavier Breton, député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain, membre du groupe d'études prison et conditions carcérales, est toujours avec moi en studio. Préparer la sortie, retrouver un travail, qu'est-ce qui est prévu en détention ? Grégory Desarmagnac, directeur adjoint au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Au 1er octobre 2018, les prisons françaises comptaient environ 70 700 détenus pour environ 59 800 places. Résultat, la densité carcérale a atteint les 118%. En clair, il y a trop de détenus par rapport au nombre de places. Grégory Desarmagnac, quelle est la situation au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ?
Alors, le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse contient 2 quartiers différents, un quartier centre de détention qui lui fait l'objet d'une limitation au nombre de places, c'est-à-dire que nous avons une cellule pour un détenu et la capacité donc ne peut pas aller au-delà. Ce sont pour les personnes détenues condamnées. Le deuxième quartier est le quartier maison d'arrêt qui lui effectivement comme la plupart des établissements qui sont touchés par la surpopulation peut contenir dans une cellule 2 détenus pour des cellules parfois configurées théoriquement pour une seule place. Nous tournons environ à 112 à 115% de taux d'occupation sur le quartier maison d'arrêt.
Donc là, au total, au centre pénitentiaire, il y a combien de détenus par rapport à la capacité de prévue ?
Nous sommes à l'heure actuelle à environ 750 personnes détenues écrouées, hébergées, pour une capacité théorique qui tourne aux alentours des 690.
Dans le rapport « Repenser la prison pour mieux réinsérer » de 4 groupes de travail sur les conditions de détenus en France, une initiative de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, publiée en mars dernier, il est écrit « Compte tenu de la surpopulation carcérale et des impératifs croissants de sécurité dans les établissements pénitentiaires, la prison ne remplit plus suffisamment son rôle d'insertion. » Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'optimisation à apporter pour pouvoir être le plus performant possible par rapport à cette mission de réinsertion. Néanmoins, je pense quand même que la prison, à l'heure actuelle, l'administration pénitentiaire dans son ensemble, mobilise énormément d'efforts, de moyens, d'énergie et de volonté, surtout, pour répondre de mieux en mieux à la question de l'insertion, et est en train de changer complètement le mode de prise en charge des détenus, en détention en particulier, pour justement beaucoup plus se tourner vers l'insertion dans la société civile, et travaille beaucoup plus en lien justement avec l'extérieur, avec les partenaires, de manière à ne jamais couper le lien avec la société. Et je trouve qu'on a un niveau à l'heure actuelle de performance sur ce point-là qui n'avait jamais été atteint jusque-là.
Comment la prison de Bourg-en-Bresse remplit son rôle d'insertion ?
Alors, elle remplit son rôle d'insertion à travers les prises en charge classiques, que sont bien évidemment les vecteurs de travail en détention, de formation professionnelle, d'activités culturelles, sportives, d'enseignement scolaire. Et du coup, sur ces démarches classiques, on essaye d'aller plus loin, puisque on essaye sur l'établissement de mettre en œuvre des nouveaux modes de prise en charge. La directrice en charge, par exemple, du quartier Maison d'Arrêt vient de mettre en place un projet de prise en charge spécifique pour le public jeune majeur, donc les détenus entre 18 et 21 ans, pour justement essayer d'apporter un regard particulier avec un surcroît d'activités, des activités thématiques, des activités vraiment propres à ce public, pour aller vraiment individualiser au mieux la peine et à ce moment-là avoir de meilleurs résultats justement quant aux chances de réinsertion et de mener les détenus plus facilement sur la voie de la désistance. Voilà, mais on est vraiment sur ce type de démarche. On est en train de changer un peu les prises en charge où les surveillants s'impliquent également dans le fait de participer, de réaliser des activités et donc vont au-delà de leur mission traditionnelle, première, qu'on imagine comme étant celle de la sécurité, j'ai envie de dire de la garde classique des détenus. Voilà, on est vraiment sur des nouvelles formes d'intervention de l'ensemble des professionnels. Donc c'est quand même très intéressant et on obtient des résultats qui sont eux aussi très intéressants et très porteurs.
Dans le cadre du plan de lutte antiterroriste, la direction de l'administration pénitentiaire a fixé un objectif de 5 heures d'activité par jour et par personne détenue. Est-ce qu'on atteint ces 5 heures au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ?
Pour chaque personne détenue, non. Nous avons des personnes détenues qui ont quand même du mal à se mobiliser pour certaines sur l'offre d'activité qui est pourtant assez riche. Donc des détenus qui n'atteignent pas ces 5 heures d'activité, mais souvent parce qu'ils n'en font pas la demande. Mais nous avons aussi quand même quelques difficultés à satisfaire toutes les demandes, puisque les journées pénitentiaires sont quand même extrêmement serrées. Il est difficile, même pour les détenus qui font les demandes, d'arriver à placer toutes leurs activités dans une journée pour atteindre justement ces 5 heures. Nous avons du mal quand même à répondre à cette offre-là parce que les journées pénitentiaires sont très, très compressées finalement.
Grégory Desarmagnac, vous êtes référent de la thématique de formation professionnelle au sein de la détention. Quelles formations peuvent suivre les détenus pendant leur détention ?
À l'interne, au niveau de l'établissement, nous avons donc des formations dites espaces verts, horticulture essentiellement, qui sont proposées à 2 groupes de détenus, sur le quartier Maison d'Arrêt, sur le quartier Centre de Détention. Nous avons des sessions de formation nettoyage qui se déroulent dans un local spécifique avec des machines adaptées, des produits adaptés. Et donc 2 formations différentes des métiers du bâtiment qui se déroulent également en interne. L'ensemble de ces formations sont conduites sur les enseignements professionnels par des organismes de formation recrutés par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui interviennent dans l'établissement et qui donc sont en contact permanent avec les personnes détenues et leur apprennent les métiers.
Donc l'idée, c'est bien que les détenus puissent exercer un métier quand ils sortent de détention.
Absolument. L'intérêt majeur de la formation professionnelle est de donner des cartes en main à la personne détenue. Nous sommes souvent confrontés donc à un public qui est en difficulté sur la situation de l'emploi, des personnes qui ne sont pas forcément pourvues de qualifications professionnelles ou de diplômes. Donc ces formations ont pour but de leur apporter non seulement les bases d'un nouveau métier, mais également un titre professionnel, voire une qualification supérieure dans ce domaine-là.
Les détenus peuvent se porter volontaires pour travailler. Ce n'est plus une obligation depuis 1987. Ça concerne combien de détenus au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse?
Nous avons donc deux types d'emplois proposés aux personnes détenues. Des emplois au service général, c'est-à-dire des détenus qui contribuent à l'entretien de l'établissement, à la préparation de la confection des repas, qui s'occupent effectivement de distribuer les produits achetés par les détenus en cantine. Donc nous avons, sur ce volume-là, nous avons plus d'une centaine de détenus qui travaillent au service général. Et nous avons en moyenne entre 80 et 120 détenus qui travaillent sur l'autre type d'emploi, qui est les emplois aux ateliers. Donc ce sont des emplois en tant qu'opérateurs ou manutentionnaires. Ce sont essentiellement de la confection, de l'assemblage pour des sociétés extérieures qui donc apportent ce travail à des personnes détenues au sein de la détention. Donc dans l'ensemble, on est quand même à 200, on peut monter au mieux du mieux jusqu'à 240, 250 personnes détenues qui travaillent.
Dans le rapport « Repenser la prison pour mieux réinsérer » de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, l'ensemble des personnes auditionnées par les groupes de travail ont dressé le même constat. Le travail en prison et la formation professionnelle ne sont pas assez développés et restent considérés comme une occupation davantage que comme un outil d'insertion professionnelle. Quel est votre avis ?
Je partage dans une mesure cet avis, et particulièrement au niveau de la formation professionnelle. La formation professionnelle étant un outil formidable pour permettre à la personne détenue non seulement de travailler, puisque c'est l'activité qu'elle fait pendant qu'elle est formée, mais d'en repartir avec une qualification et donc tout de suite des bases utilisables à l'extérieur pour sa préparation à la sortie. Donc je prêche personnellement pour vraiment qu'un effort soit fait au maximum sur la formation professionnelle au sens large des personnes détenues. La formation dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien l'enseignement que les formations dites professionnelles à proprement parler.
Le travail permet plus de s'occuper, mais pas ensuite de pouvoir se former pour la suite. C'est ça que vous constatez?
Oui, le travail, effectivement, en détention a un côté fortement occupationnel et également un côté de subsistance, puisque le revenu qu'il assure aux personnes détenues leur permet donc d'améliorer le quotidien en détention, d'indemniser les parties civiles ou de payer les amendes lorsque les personnes détenues ont été condamnées à payer des amendes ou indemniser les parties civiles, et éventuellement même à pouvoir essayer de continuer à soutenir leur famille en envoyant une partie de l'argent qu'ils gagnent en détention à l'extérieur, puisqu'effectivement, leurs familles sont parfois aussi mises en difficulté par le fait de l'incarcération.
Est-ce que vous pouvez donner une estimation de combien peut gagner un détenu par mois, par exemple ?
Pour une personne détenue qui effectue un mois complet de travail, selon les postes, bien évidemment, la rémunération peut aller d'environ 150 euros à jusqu'à 400 euros sur vraiment les postes les postes d'opérateurs sur lesquels il y a une grosse production. Voilà, donc entre 150 et 400 euros à peu près.
À l'approche de la sortie, est-ce que plus d'actions sont prévues pour l'insertion professionnelle ?
Par rapport à la sortie, si vous voulez, nous, c'est quelque chose au niveau de l'administration pénitentiaire qu'on essaye d'envisager longtemps en amont. La date de fin de peine est quelque chose d'extrêmement mouvant, puisque dans le cadre des nombreux aménagements de peine que peuvent solliciter les personnes détenues, l'objectif est d'essayer de faire en sorte que la plupart des détenus ne terminent pas leur peine de manière sèche, c'est-à-dire au terme vraiment de la date, donc de les faire sortir avant. Donc il n'y a pas d'accélération ou d'accentuation d'activité d'insertion par rapport aux dates de sortie, puisque tout ce travail-là est fait déjà au fur et à mesure, tout en amont de la détention.
Comment vous pourriez expliquer le fait qu'on cherche à faire sortir les détenus avant la fin effective de leur peine ?
Parce que ça donne un sas dans lequel la personne détenue condamnée demeure toujours sous contrôle de l'administration pénitentiaire durant cette période d'aménagement de peine, donc doit toujours rendre des comptes à la justice, par le biais notamment du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est le service qui est chargé du suivi des mesures en milieu libre, à la différence d'une sortie en fin de peine, où la personne détenue n'a pas nécessairement de mesures de justice et d'obligation de compte à rendre. Donc j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est justement d'autant plus intéressant pour la société, c'est que l'État garde pendant cette période-là un contrôle un peu plus fort sur ce que devient la personne qui était détenue, le condamné, et continuer à évaluer si elle est bien sur la bonne voie finalement pour ne plus récidiver, pour pouvoir se réinsérer correctement et donc amenuiser les risques de récidive.
Grégory Desarmagnac, 59% des personnes sortant de prison font l'objet d'une nouvelle condamnation dans les 5 années suivant leur libération, quelle que soit la nature de la peine prononcée. C'est le constat de l'enquête « Les risques de récidive des sortants de prison », une nouvelle évaluation parue dans les cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques en mai 2011. Comment expliquer ce chiffre ?
Je pense que ce chiffre est malgré tout normal, quelque part. Je pense que beaucoup d'études ont démontré que le passage à l'acte délinquant ou criminel était le fruit d'un parcours, d'une évolution, d'une histoire de vie. Les choses ne sont pas complètement blanches ou complètement noires d'un seul coup. Donc le fait de sortir des schémas qui ont pu conduire à la délinquance ou à la criminalité est aussi un parcours et une évolution. Les choses prennent du temps. Plus ou moins selon les personnes, plus ou moins selon ce qui a pu être mobilisé. Il n'est pas anormal qu'il puisse y avoir d'autres passages à l'acte avant une sortie complète de la délinquance ou de la criminalité. C'est ce qu'on appelle un petit peu maintenant donc le chemin de la désistance. Donc oui, la récidive, elle existe. Elle ne tombera jamais, à mon sens, à 0%. Sachant que le travail que nous avons tous à faire, à l'administration pénitentiaire comme l'ensemble de la société, c'est d'essayer de guider au mieux les personnes qui sont tombées dans cet engrenage de délinquance ou de criminalité et de réduire les passages à l'acte, aussi bien dans leur quantité que dans leur gravité, pour petit à petit amener les gens à en sortir définitivement. Il faut l'intégrer et essayer de la faire diminuer naturellement, mais dans le cadre d'un processus qui prend du temps.
Dans le sondage de la Fondation Jean Jaurès, Les Français et la prison, publié en avril dernier, 72% des personnes interrogées approuveraient le renforcement des programmes de réinsertion des détenus. Ils étaient près de 90% en 2000, mais toujours selon ce sondage, je le cite, « Ils ne semblent pas prêts à consentir que l'on y mette les moyens pour y arriver. Qu'auriez-vous envie de dire aux Français ?»
Que effectivement, si on sollicite des ambitions particulières, de faire des efforts, quel que soit le domaine, hein, pas uniquement le domaine de la prise en charge des personnes détenues, à un moment, il faut se donner les moyens. Sinon, effectivement, il n'y a pas de résultat derrière. Donc ces moyens sont absolument indispensables pour pouvoir continuer à faire des efforts, accentuer les efforts et essayer d'améliorer justement le résultat. Donc il y a aussi un retour sur investissement, si je puis dire, même si on est encore une fois sur quelque chose de très humain, c'est un véritable investissement sur l'être humain, sur sa capacité à changer, et un investissement sur, je l'espère, l'apaisement de certains comportements délinquants et criminels, et donc plus de sécurité.
Ça vous surprend que des personnes puissent être favorables à l'insertion, mais qui n'ont pas envie qu'on mette... Qu'on mette des moyens, c'est comme pour l'emploi, on dit pourquoi les détenus devraient travailler alors qu'il y a beaucoup de chômage et que d'autres personnes plus légitimes pourraient travailler à leur place.
Non, ce n'est pas une surprise, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, d'assez humain voilà, il y a beaucoup de réflexion sur cette question de la justice sociale. Effectivement, est-ce qu'on doit plus donner à tel ou tel type de personnes, des personnes handicapées, des personnes détenues, que faire ? Voilà, je pense personnellement qu'il faut pas rentrer dans ce genre de comparaison. Voilà, les personnes détenues, qu'elles soient condamnées ou pas condamnées, sont des citoyens à part entière de la société. C'est des gens qui vivaient dans la société avant d'être incarcérés, qui continuent à vivre pendant qu'elles le sont et qui vont continuer à l'être après leur sortie. Donc nier ça ne me paraît absolument pas possible. Il faut simplement l'accepter et essayer de se dire qu'on doit travailler tous ensemble sur tous les publics en difficulté, quels qu'ils soient, pour réduire les difficultés sociales et arriver à mieux vivre ensemble.
Grégory Desarmagnac, directeur adjoint au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Xavier Breton, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Je crois que c'est un témoignage très concret par rapport à l'établissement qui est bien sur notre territoire. On voit que ces questions d'activité, et notamment en termes économiques, impliquent une mobilisation d'abord des détenus qui doivent être volontaires. C'est le cas. D'une partie, une majorité ou pas, enfin voilà, c'est à regarder, mais il y a une partie des détenus qui est plutôt réticente à ces activités. Donc là, il faut en tenir compte aussi. Donc ça, c'est le premier point, c'est la mobilisation des détenus. Le deuxième point, c'est la mobilisation du tissu économique et la mobilisation des entreprises qui peuvent proposer des activités. Alors, soit pour les détenus pendant qu'ils sont en prison, mais également à la sortie. Et là, il est important aussi de développer l'information. Et dans le travail de la commission des lois auquel vous faisiez référence tout à l'heure, une des préconisations, c'est justement d'améliorer ce lien, ce dialogue avec les entreprises, où on leur montrerait concrètement comment ça peut se passer. Moi, ce que je constate en pratique pour la mobilisation du tissu économique, c'est aussi très dépendant du niveau d'activité. Quand on est en période de grand boom économique où il y a des besoins effectivement de main-d'œuvre, là, à ce moment-là, il y a des possibilités de déboucher pour des détenus qui sortent de prison. Il y a des possibilités d'activités, de prestations à faire à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Dès qu'on revient en période, comme on l'a eu ces derniers mois, d'activités moindres, effectivement, ça devient plus compliqué. Donc, mobilisation des détenus, mobilisation du tissu économique. Puis, troisième point, c'est mobilisation de l'administration pénitentiaire. C'était très intéressant d'entendre. C'est-à-dire, il y a un objectif qui est 5 heures d'activité, mais concrètement, on ne sait pas comment faire. Et je le comprends tout à fait par rapport à l'organisation et aux moyens qui sont aujourd'hui donnés au milieu pénitentiaire. Mais ça implique aussi, peut-être, qu'on revoie un petit peu la manière d'organiser et qu'on mette effectivement cette nécessité d'activité au cœur même du centre pénitentiaire. J'évoquais tout à l'heure la question de l'architecture, c'est un des sujets. La manière dont on conçoit les prisons doit, en termes architecturaux, doit exprimer également un projet qu'on a de fonctionnement à l'intérieur. Donc bien sûr, il y a les préoccupations de sécurité, ils sont primordiales, on est d'accord, mais également en termes de fonctionnement, notamment tout ce qui est au niveau des activités, ne devrait pas être relégué, mais devrait être vraiment prévu au sein même de l'établissement, au sein d'un véritable parcours. Mais c'est également vrai au niveau de l'organisation, horaire, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'insuffisance de moyens, notamment en termes de personnel pénitentiaire, empêche de pouvoir organiser de véritables activités, parce que ça nécessite bien des disponibilités pour accompagner les détenus vers tel atelier, vers tel équipement, etc. Et tout ça, aujourd'hui, quand on connaît les contraintes, c'est effectivement très compliqué.
Les détenus du quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse suivent la formation Métier de la nature et du patrimoine bâti, un dispositif financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La partie pratique est confiée au centre de formation professionnelle Les Sardières. 3 sessions sont organisées chaque année. Cette formation est proposée aux détenus condamnés. Le projet est préparé par la personne elle-même en lien avec un conseiller d'insertion et de probation. C'est ensuite à un juge de l'application des peines d'accepter ou pas un aménagement de peine. Les détenus retenus pour cette formation sont hébergés au quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire. Ils sortent la journée pour aller sur le lieu du stage avec l'encadrant technique et le soir, ils retournent au quartier de semi-liberté. Une session est en cours, 4 détenus y participent.
Bonjour, Gilles, formateur pour les Sardières. J'ai récupéré mes stagiaires ce matin, ils sont au nombre de 4. Je vais les chercher au quartier de semi-liberté. Et nous sommes donc en formation sur un chantier de réhabilitation d'une vieille ferme donc d'Hambourg. Ce groupe-là, il est très homogène. C'est un groupe de vétérans, on va dire. La moyenne d'âge est à 52 ans et demi, moi y compris. Et donc finalement, ils sont très autonomes sur le chantier. Il n'y a pas eu vraiment de temps d'adaptation. Le groupe s'est bien formé, chacun prend un petit peu soin, surveille, regarde ce que fait l'autre pour travailler en sécurité, parce que ça c'est très important, on a des machines qui peuvent être très dangereuses.
Bon bonjour, je me présente, je m'appelle Amar.
Pascal.
Comme diplôme, niveau scolaire, j'ai le niveau 3e, j'ai un CAP menuiserie.
Brevet, et puis c'est tout.
J'ai déjà travaillé dans le bâtiment, dans la manutention un peu. Et dans les travaux publics.
J'ai travaillé manœuvre de 16 ans à 17 ans. Et après, une vie de hors norme, quoi, on va dire. Beaucoup de prison.
Donc ouais, Pascal, là, on va essayer d'accéder derrière, là.
Ouais.
Parce que derrière, ça a l'air plus dégagé.
Ouais,
donc il pourra peut-être passer directement avec le Doberman. Pendant que toi, tu vas taper dans les buissons.
Allez.
Puis on va récupérer nos ouailles. Hein ?
Tu veux que je dégage ici ?
Peut-être là, sur le côté, si tu veux. Ou... Enfin, faut trouver un passage. Parce que comme ça, ça va permettre aux autres d'aller bosser derrière. Là, il y a trop épais, là. Ça y est. On va se reculer.
Ah, faites gaffe, ouais.
Bah, le premier jour de la formation, ce que j'ai ressenti, la liberté déjà.
D'être en contact de la nature que d'être enfermé dans 9 mètres carrés, il n'y a pas mieux.
Bah, cette formation nous apporte le bien-être, hein, franchement, on est bien. À chaque fois qu'on est là, en train de tailler les herbes ou faire la pelouse.
Une satisfaction du travail qu'on fait pour d'autres gens, les associations. Je pense qu'ils ne sont pas mécontents de notre travail, alors ça nous prouve qu'on est capable, même si on est des détenus, qu'on est capable de faire autre chose quand on nous donne l'opportunité.
Bah nous, franchement, on est passé par la prison, donc on est sorti là. Nous, on sait que c'est un bon exemple et c'est bien pour recommencer la réinsertion par cette formation-là.
Je prends pour mon cas, moi, je suis pratiquement à la retraite, mais vous avez des jeunes que je pense que ça leur ferait du bien, et surtout au démarrage de leur première connerie, ça leur apprend à se lever le matin, à reprendre un sens dans le travail, et puis d'être valorisé avant d'être lâché tout de suite.
Mais je pense qu'on n'est pas assez, on devrait lâcher plus de personnes pour la faire. Vu qu'il y a beaucoup de réussite, je pense, à la fin, il n'y a personne qui se plaint. Donc il devrait mettre plus de monde, je pense.
Plus loin, là, où on a dégagé, ouais. On a passé Pascal. Essaye d'aller dans le derrière, là, où il y avait Martin, puisqu'il est en partie là-bas. Comme ça, tu peux couper, tu t'embêtes pas à couper en haut, tu coupes juste en dessous.
Je vois pour moi que ça faisait longtemps que je ne connaissais pas la vie libre, et puis tout ce qui est administration, je ne connaissais pas. C'est bien d'être aidé du départ, parce que sinon, si vous sortez plein après une longue peine, ben, je comprends qu'il y a des gens qui se retrouvent perdus à l'extérieur, qui se rattachent qu'à leur passé, mais pas à l'avenir, parce qu'on ne leur a pas mis le pied à l'étrier du départ. On ne peut qu'aller pour avancer vers nos anciens démons.
Ouais, ça joue beaucoup pour la récidive, c'est sûr. Surtout qu'il y en a qui sortent de 1 an, de 2 ans, il y en a de 10 ans. Il faut les préparer, on sort. Lâche pas quelqu'un comme ça, donc c'est une bonne formation, franchement. Bah, de toute façon, même si on travaille pas dans la nature, même si c'est pour nous, à la maison, tourne notre jardin, on a des acquis après ça, ça c'est sûr. Hein. Ça nous servira.
Ça peut être transversal, tu peux...
Ça soit professionnel.
L'idée, c'est que ce que tu fais là, ça puisse être... ça peut être transformé en autre chose pour un autre travail. C'est un peu l'idée, quoi. Mmh. Pour obliger de travailler spécifiquement dans les espaces verts.
Oui, voilà.
Ce que tu auras acquis comme expérience, ça peut toujours être utile pour faire n'importe quoi, ne serait-ce qu'une cadence de travail.
C'est des bons bagages, ouais. C'est ça.
Vous êtes arrivé au début, vous disiez, on ne sait pas faire. Bah si, maintenant vous savez faire. Oui. Et puis ça va beaucoup plus vite qu'il y a un mois.
Il y a un mois, voilà. Ouais. Non, mais c'est ça.
Et puis le travail d'équipe, parce que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, pas dire indispensable dans la vie active.
C'est ça.
Faire attention à la personne qui est à côté de toi pour travailler, c'est aussi... important que le travail en lui-même.
Et s'entraider, se soutenir.
Voilà, s'entraider, se soutenir.
Qu'en prison, c'est pas du tout la même vie. C'est plus individuel, plus sous la réserve. La prison, c'est la micro-société de l'extérieur. Sauf, on est tous rassemblés et il y a beaucoup de mélange. On n'a pas cette pression des murs qui nous rend plus aigris. Et puis, en plus, on est tous différents. Dans les de vie extérieure comme intérieure, on est plus ou moins tous différents. C'était pas obligé qu'on se rencontre et qu'on puisse discuter à l'intérieur.
Ben non, on se connaissait même pas, on s'est jamais vu. Peut-être qu'on serait jamais parlé. Moi, ben voilà, c'est un bon tremplin pour recommencer sa vie.
Ouais. Amar, laisse-le travailler, il t'entend pas. Oui, faut toujours surveiller la sécurité, c'est hyper important parce que. Comme ils ont tous des casques, ils n'entendent pas forcément le voisin. Il est parti du travail.
Pendant ces 4 mois de formation pratique et à la fin de cette dernière, chaque détenu est accompagné pour rechercher un emploi et retourner dans la vie active. Cette partie est menée par le GREP, le groupe pour l'emploi des probationnaires. Cette association intervient aujourd'hui dans 3 départements, la Loire, le Rhône et l'Ain. Xavier Brotour, en quelques mots, vos retours après le témoignage de ces détenus ?
C'est un très beau reportage, voilà, parce que je crois qu'on voit à la fois les valeurs du travail, mais qui sont exprimées vraiment dans toute leur force, c'est-à-dire à la fois en termes de possibilités d'épanouissement personnel, mais également en termes de savoir-faire et de savoir-être, hein, c'est également cette dimension collective de vivre ensemble, et ça c'est vraiment très, très parlant. Et puis le deuxième point, on se rend compte que pour une opération comme celle-là, qui est pour 4 détenus, ça implique une mobilisation importante. Parce qu'effectivement, il y a tout d'abord toute l'organisation à prévoir avec le centre pénitentiaire, de pouvoir sortir en semi-liberté. Enfin,
organiser l'aménagement de peine, oui.
Tout à fait. Donc il y a ça avec les questions de sécurité qui sont à prévoir. Enfin, tout. Et puis il y a également un établissement qui est partenaire, en l'occurrence le lycée des Sardières. Il y a une formation qui est prise en charge par la région. Enfin, tout ça, c'est une grande, grande mobilisation pour 4 détenus. Hein. On entendait tout à l'heure sur l'ensemble du centre pénitentiaire de Bourg, c'est 250. Au plus, hein, au maximum, détenus et qui, sur les 750 que compte le centre pénitentiaire de Bourg, qui ont une activité, un tiers. Donc on se rend compte que pour arriver effectivement à développer ce type d'activité, il faut passer à la vitesse supérieure.
L'actualité cette semaine, c'est l'arrivée aujourd'hui à l'Assemblée nationale du projet de loi de réforme de la justice. Xavier Breton, qu'est-ce qui est prévu en particulier pour la réinsertion ?
Alors, sur si vous voulez, sur ce qui concerne la prison en tant que telle, on va avoir la déclinaison du programme gouvernemental qui avait été annoncé avec des constructions de places de prison à hauteur de 15 000 pour le mandat. Finalement, ça sera à hauteur de 7 000. Il y aura la notion d'expérimentation de centres de prison, ce qu'on appelle les prisons ouvertes, hein, qui existent déjà de manière expérimentale aujourd'hui, mais on va continuer, qui permettent effectivement d'avoir des détenus, alors dans des territoires qui sont vraiment bien adaptés, mais des possibilités d'ouverture. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans le témoignage aussi, ce lien avec la nature, enfin, ces activités. Donc là, ça se ferait vraiment au niveau de l'ensemble d'une prison. Donc c'est prévu. Et puis sur la réinsertion, on en reste, j'allais dire, toujours sur des déclarations d'intention, mais on ne peut pas dire qu'il y ait, parce qu'en fait, si vous voulez, ce n'est pas du domaine de la loi à mettre en pratique maintenant ce qu'on veut faire, c'est bien dans le concret qu'il faut. Et donc, ce n'est pas la loi qui va dire on oblige à, vous comprenez, ça ne peut être qu'une mobilisation. Donc, sur ce volet-là, je trouve qu'on reste toujours un petit peu en dedans, hein, d'une certaine manière. Et que je pense aussi qu'on ne s'appuie pas assez sur les tissus locaux. Si vous voulez, sur des centres pénitentiaires qui sont situés comme par exemple à Bourg-en-Bresse, on devrait avoir un travail en commun avec les collectivités locales. Je pense à l'agglomération, notamment, qui a la compétence de développement économique. Ça se fait au niveau de la région, mais ça pourrait être plus développé au niveau de la formation, au niveau des bilans de compétences, etc., qui pourrait être développé. Et là, on pourrait avoir des approches plus territorialisées. Et en fait, je pense qu'il y a un manque de dialogue qui vient des deux parties. Hein. D'une part, il y a les collectivités locales qui, effectivement, c'est pas une demande de leur population quotidienne de dire « occupez-vous des prisons », il faut être très clair. Et puis, le deuxième point, au niveau de notre administration pénitentiaire, et plus généralement de l'administration du ministère de la Justice, ça reste beaucoup trop centralisé. Ça, on l'a vu notamment au niveau du rapport d'information qu'on a fait sur la question des fouilles en prison, qui est une autre question, mais la manière dont les consignes sont données en ne faisant pas assez confiance à chaque établissement pour ensuite organiser son système de fouilles. Mais c'est la même chose en termes de beaucoup d'activités. Il y a une gestion qui est, encore une fois, la préoccupation première, c'est la sécurité, on le comprend. Mais avec des moyens qui sont insuffisants, tout est concentré sur cette question de sécurité, se crispe avec des relations très compliquées entre détenus et surveillants pénitentiaires, des conditions de travail qui sont très compliquées pour les surveillants pénitentiaires, des conditions de détention qui sont aussi très difficiles pour les détenus. Et donc les actions qui pourraient être positives, finalement, aujourd'hui, elles passent très très loin dans le cadre des priorités. C'est vraiment considéré comme secondaire. alors que on devrait avoir vraiment un message beaucoup plus fort là-dessus. Et quand vous attendez les débats, par exemple, à l'Assemblée, ça va être, il faut plus de places de prison, il faut, enfin, on va être sur des débats comme ceux-là.
Alors qu'il faudrait plus de moyens, au final, et en fait, plus d'humains, en fait.
Et en fait, il faut, oui, il faut, alors, il faut être très clair aussi, hein, de dire... Le contexte budgétaire fait que c'est compliqué. Donc, il ne faut pas faire de démagogie en disant il faudrait augmenter de 10% l'enveloppe du ministère de la Justice. C'est facile à dire. Mais quand on était soi-même dans une majorité qui a fait des choix budgétaires gros, il ne faut pas... non, simplement, ça implique, si vous voulez, je prends l'exemple de la centralisation sur les questions de sécurité. Vous avez des systèmes de portiques pour, à ondes millimétriques qui permettent de détecter des objets. Ça coûte 150 à 160 000 euros à peu près un portique. Nous avons vu dans des établissements des portiques qui ont été imposés par l'administration centrale, qui sont complètement inopérants pour ces établissements, parce qu'il y a un tel flux de personnes, des prestataires qui viennent apporter des services au sein du centre pénitentiaire, des visiteurs, etc., que ce n'est pas opérationnel. Donc vous avez, par exemple, à Fleury-Mérogis, un portique comme celui-là de 150 000 euros qui est dans un couloir qui ne sert à rien, qui a été implanté il y a 6 ans, sur instruction du ministère de la Justice, et personne... aujourd'hui, est venu évaluer l'intérêt de ce portique, s'il sert à quelque chose ou pas. Voilà, il est là. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, vous vous rendez compte que des moyens ne sont pas toujours bien utilisés parce qu'il n'y a pas, cette suffisamment de confiance pour dire, allez, comment vous vous organisez à partir des moyens que vous avez, à partir des moyens humains, à partir des moyens budgétaires. Et quel est véritablement votre projet pour un établissement? Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et donc, du coup, chacun essaye de faire du mieux possible. Encore une fois, les personnels qui sont dedans travaillent dans des conditions très, très compliquées aujourd'hui. Mais on est loin, effectivement, de pouvoir repartir un petit peu de l'avant sur cette prise en compte des détenus en disant la peine, ok, c'est vu, il y a des sanctions à avoir. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être laxiste. Je suis tout à fait d'accord là-dessus pour la question de la punition, de la sanction. Cette sanction, elle s'applique à une personne. Et cette personne, elle a une famille, elle avait un emploi ou elle n'en avait pas, mais elle a une qualification à faire. C'est quoi son parcours? Et donc, on ne peut pas simplement reléguer des personnes au fond de notre société et en disant on ne souhaite pas les voir. Non, je crois que la question de la prison, c'est une question centrale dans toute société.
Xavier Breton, il y a un peu plus d'un an, vous étiez au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Simultanément, d'autres députés ailleurs en France visitaient eux aussi des prisons. Les députés peuvent le faire quand ils le souhaitent. Vous aviez souligné plusieurs difficultés, comme les projections récurrentes de stupéfiants, de téléphones portables. À ce sujet, vous aviez rappelé l'urgence de la pose de filets anti-projection. Est-ce que ça a été fait?
Non, toujours. Alors, il y a toujours, les études sont toujours en train d'être faites, mais on se rend compte que sur ces annonces, qui datent déjà du temps de la garde des Sceaux, Madame Taubira, ça avance doucement et les projections continuent. Donc, je trouve effectivement que sur ces dispositifs qui sont annoncés, eh bien, on a vraiment beaucoup, beaucoup de retard. Aujourd'hui, la question des portables, des téléphones portables, est très inquiétante au niveau des centres pénitentiaires. Les systèmes de brouillage d'ondes fonctionnent plus ou moins bien. On est sur des dispositifs qui restent parfois encore en 2G, donc vous voyez, on a beaucoup de retard. Les systèmes anti-projection ne sont pas assez développés. Les fouilles, le système n'est pas assez efficace. Les systèmes de vidéosurveillance sont inégaux. Vous avez certains couloirs ou certaines cours qui sont très bien filmés, d'autres, il y a des recoins qui ne le sont pas. Enfin, on connaît les questions et malheureusement, les réponses ne sont pas à la hauteur. Nous avons fait, suite au rapport que j'ai fait avec un collègue de La République En Marche, on fait des préconisations, y compris budgétaires, en disant il faut, et ce n'était pas des enveloppes supplémentaires, on disait il y a peut-être moins à prendre de ce côté-là pour mettre la priorité sur ces questions de sécurisation. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et donc, tout ça, ce sont des semaines et des mois qui passent, qui sont compliqués, à la fois pour les surveillants qui se retrouvent en situation d'insécurité, mais également pour les riverains des centres pénitentiaires qui se trouvent complètement perturbés par ces allées et venues de jeunes qui viennent amener à leur, leurs copains ou grands copains ou grands frères qui sont en prison, eh bien, tel ou tel soit arme, quand ça peut être des petits couteaux, ça peut être des téléphones portables, etc., qui sont projetés et qui peuvent être à ce moment-là et qui deviennent des outils dangereux pour la sécurité des établissements.
Alors vous dites quoi, ces personnes qui voient les jours passer, encore un peu de patience?
C'est très, très compliqué parce que d'une part, si vous voulez, la question de la sécurisation ne relève pas de l'administration pénitentiaire, qui n'a que l'enclos, entre guillemets, du centre à surveiller. Une des pistes que nous, sur lesquelles nous disons qu'il faut travailler, ça serait d'élargir la compétence des forces de sécurité pénitentiaire aux abords. Bon. Il faut voir, parce que ça implique notamment en termes de compétences, des répartitions par rapport aux forces, soit de police en milieu urbain ou de gendarmerie, en fonction du centre pénitentiaire. Mais il est clair que là, il y a une espèce de no man's land aujourd'hui qui existe aux abords des centres pénitentiaires et dans beaucoup de centres en France. Et que les réponses sont très loin d'être à la hauteur. J'ajoute qu'il y a un nouvel élément qui est en train d'apparaître, c'est la question des drones, qui est aussi en train d'émerger, avec les drones qui survolent les centres pénitentiaires, qui amènent des objets. Et là, le plan anti-drone, entre guillemets, n'en est qu'à ses balbutiements. On a pu aller dans un établissement d'Île-de-France, à Réau, l'établissement du sud francilien, où il y a un dispositif anti-drone, mais qui n'est fonctionnel que sur une partie seulement des drones. Mais c'est en train d'arriver, donc tout ça implique à nouveau des moyens, etc. Et donc il faut effectivement qu'au niveau de notre société, nous soyons d'accord pour que il faut assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires pour les détenus eux-mêmes, pour qu'eux, il n'y ait pas de violence entre eux. Ce sont eux les premières victimes. Pour les surveillants pénitentiaires qui travaillent dans des conditions très compliquées, et également pour notre société. Parce que qui dit un climat apaisé en centre pénitentiaire, ça permet derrière de développer des actions, à vocation d'insertion, de formation, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment consacrer des moyens. Et quand j'entends aujourd'hui, si vous voulez, des discours qui consistent à dire les prisonniers, de quoi ils se plaignent, ils ont la telle air de leur cellule, etc. Sincèrement, ça ne correspond pas à la réalité de ce que vivent les détenus. La privation de peine est quelque chose de très lourd. Encore une fois, la peine en elle-même, je ne la conteste pas. Mais simplement, il faut qu'on ait un peu de cohérence et que dans l'exigence de la peine qui est donnée par société, il faut qu'il y ait aussi cette perspective qui soit offerte à la fois pour la personne qui est incarcérée, mais également pour son entourage. Pensons aux enfants, etc., qui sont directement concernés, mais pensons aussi à notre société, parce qu'ils sont complètement dans notre société, ils ne sont pas du tout à l'extérieur, comme on voudrait trop souvent le faire croire.
Xavier Breton, merci.
Merci.
Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain. Vous êtes aussi membre du groupe d'études Prison et conditions carcérales et rapporteur de la mission d'information sur le régime des fouilles en détention. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à mes invités Stéphane Mercurieux, Xavier Breton au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et à Bruno Laffey, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain. Et merci à vous pour votre écoute. Bonne soirée sur Radio B. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h, et à tout moment sur notre site radio-b.fr.